Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans le studio Jean Orsi de Radio Nîmes, 92.2 sur les ondes ou radionimes.fr sur internet, mais toujours Radio Nîmes avec l'accent, pour une nouvelle émission d'Envie de Nîmes, le rendez-vous mensuel autour du patrimoine humain, patrimoine architectural. L'émission est présentée par Salem Marchi et Bernard Mouret et fait l'objet d'une rediffusion tous les 3e mercredi du mois. Elle est également disponible en podcast sur le site internet de l'émission, ainsi qu'une courte vidéo permettant de visualiser nos invités. Alors, à partir du 13 mai, le Carré d'Art expose les œuvres de Joseph Massota, architecte né 100 ans plus tôt dans la ville de Nîmes. Une exposition rendue possible grâce à l'action et à la volonté de l'association Les Amis de Joseph Massota, architecte, qui a souhaité lui rendre hommage en présentant au public une sélection de ses œuvres artistiques. Nous avons le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'accueillir Anne-Marie Lanta, qui est bon, d'abord architecte, qui est également membre des Amis de l'association et qui travaille également avec la DRAC, on en parlera donc un petit peu plus tard, et Isabelle Massota, alors, qui va se présenter, ainsi qu'Anne-Marie Lanta, qui vont expliquer leur lien avec Joseph Massota et la ville de Nîmes. Mais avant, je passe la parole pour quelques mots à Salem Marchi.
Eh bien, chers amis, ni moi, nous sommes toujours aussi heureux de vous retrouver. J'espère que nous allons passer encore un moment très convivial parce que c'est notre but. Il n'y a aucune prétention dans notre émission, mais on essaie de présenter des gens, des artistes, des écrivains, des poètes, des peintres. Et là, aujourd'hui, l'émission dédiée à Joseph Massota me tient vraiment à cœur parce que j'ai appris, je le connaissais un petit peu, mais j'ai appris encore des choses qui m'ont beaucoup touché, notamment le côté résistant, et puis le côté volontaire, et puis c'est quelqu'un qui a connu un certain nombre d'épreuves qui ont été assez importantes et qu'il a surmonté. Et je connais bien sûr Isabelle Massota depuis très longtemps, et ainsi que Jean-Michel, son frère qui nous a quittés il y a quelques années et auquel je voudrais vraiment rendre hommage. Voilà.
Isabelle Massota.
Oui, bonjour. Eh bien, d'abord, merci de nous recevoir. Voilà, donc moi, je suis la fille de Joseph Massota. Je suis pas native nîmoise. Je suis arrivée à Nîmes pour commencer mes études secondaires au lycée Alphonse Daudet. Ensuite, par la suite, j'ai exercé la profession d'infirmière libérale dans un très joli secteur à côté de Nîmes qui s'appelle la Vonage. Donc j'ai exercé pendant 38 ans et je suis à la retraite maintenant depuis déjà 4 ans, ça passe vite. Et parallèlement à ça, j'ai toujours eu une activité artistique, voilà, j'ai peint dans des ateliers partagés, j'ai fait quelques expositions et je continue d'ailleurs de toute façon toujours parce que ça c'est quelque chose, c'est une passion qui ne me quittera jamais.
Puis Isabelle est toujours très engagée dans l'humain, dans l'altérité, on va dire. Voilà.
Anne-Marie Lanta.
Bonjour. Donc, pour ma part, je suis nîmoise et architecte. J'ai fait mes études à l'école d'architecture de Montpellier et j'ai fait quasiment toute ma carrière à Nîmes, principalement au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Gard. Et j'ai toujours œuvré donc dans la sensibilisation et la mise en lumière des œuvres architecturales, notamment d'architectes du XXe siècle.
J'ajouterais que Anne-Marie Lanta, c'est une personne ressource. Quand on a besoin de savoir quelque chose sur l'architecture, sur les... Ah, mais je crois qu'il y a Anne-Marie Lanta et elle est très sympa. Il suffit de lui dire, voici le mail, voici peut-être le téléphone et vous serez jamais déçu. Donc voilà Anne-Marie Lanta.
Je vous propose une première pause musicale qui va vous surprendre, mais dont nous aurons l'explication après.
Para, 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 pa, 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 pa. On dit quelquefois au village, la casse, ça sert à rien du tout,
rien du tout.
Ça sert à donner du courage à ceux qui n'en ont pas du tout.
Pas du tout.
De loin, ça prend des airs fantasques.
Et chacun dit en les voyant, oh, ce qu'ils sont beaux avec leur casse.
Ça leur donne des petits airs. pas tant. Pas tant.
Un casier d'une coiffure, un pompier de la figure, un casque de pompier, ça fait presque un guerrier.
Ça leur donne des airs vainqueurs, ils sied pas mal à leur valeur.
Sous ce casque luisant, luisant, ils ont l'air épatant vraiment.
La boum la boum la l'air, zip la boum la boum la la, zip la boum la boum la l'air, un pompier, c'est bien au-dessus de ça.
La 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 la, la 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 la, la 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 la.
On nous raconte dans l'histoire que les Romains et les Gaulois,
les Gaulois,
ces fils chéris de la victoire.
Autrefois,
le casque est donc un héritage
de tous ces guerriers valeureux et valeureux. Et si nous l'avons en partage,
c'est que nous sommes tous des pompiers comme eux. Parons,
que j'ai une coiffure, pas de la figure,
un casque de pompier, ça fait presque un guerrier.
Ça leur donne des airs vainqueurs. Pas mal à leur valeur.
Sous ce casque luisant,
ils ont l'air
ébattant fréquent.
Zip la boum la boum la l'air,
zip la boum la boum la la,
zip la boum la boum la l'air,
un pompier c'est bien au-dessus de ça.
Pa la 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 la,
pa la 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 la,
pa la 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 la.
De retour dans le studio Jean Orsi de Radio Nîmes avec l'accent pour évoquer Joseph Massota. Et pour nous éclairer, peut-être une solution là, de cette énigme, pourquoi cette chanson?
Tout simplement parce que cette chanson, c'est l'hymne des étudiants en architecture depuis la fin du 19e siècle. Et je crois même d'ailleurs qu'ils la chantent encore. Voilà, c'est une chanson, comme vous l'avez entendu, pour se donner du courage. C'est une chanson où on sent quand même qu'il y a de la dérision, puisque ils parlent du casque du pompier, ils s'en moquent un peu. Et en même temps, ils parlent de guerriers. Et je pense que c'est vrai qu'à cette époque, rentrer comme étudiant en architecture, c'était un peu devenir un guerrier, parce que c'était une école extrêmement exigeante, qui entendait préparer les futurs architectes à des contraintes importantes, vis-à-vis par exemple des commandes, des concours, et cette chanson, elle était souvent chantée soit pour le bal des Quasars ou alors quand ils étaient charrettes. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'était.
Non.
être charrette, c'est une expression vraiment du milieu de l'architecture, c'est-à-dire que quand il s'agit de rendre un travail dans des délais qui sont impartis, et ils travaillaient même parfois la nuit pour pouvoir rendre le travail dans les temps. Et d'ailleurs, pourquoi charrette? Parce qu'il y avait des ateliers qui étaient extérieurs à l'école des Beaux-Arts. Et donc, quand ils avaient terminé, après au bout de plusieurs nuits de travail, leur concours, et donc ils allaient louer des charrettes à des bougnats, etc. Ils mettaient leurs grosses toiles et leurs travaux sur les charrettes.
Et oui,
ils revenaient dans la cour de l'école des Beaux-Arts et dans la fameuse salle où il y avait lieu les concours.
Eh bien, on rentre dans la culture des
Vous
Beaux-Arts.
Mais
c'est bien, mais c'est très bien. Moi, je ne le savais pas et je trouve ça très intéressant.
Et mon père la connaissait par cœur.
Mais j'imagine.
Et nous la chantait souvent quand il était de bonne humeur.
Joseph Massota, alors, est né à Nîmes. Il s'est rapidement tourné vers le dessin puisqu'il était à l'école de dessin municipale, c'est
Tout
ça
Tout à fait, voilà, c'est ça. Son père l'a inscrit, c'est un instituteur qui remarque son goût pour le dessin, un certain talent, et qui dit à son père, conseille à son père de l'inscrire à l'école municipale de Nîmes. Et puis dans la foulée d'ailleurs, il l'inscrit également, puisque mon grand-père était SFIO, il l'inscrit également chez les Faucons Rouges, qui était, on peut dire, un peu l'équivalent des jeunesses socialistes, mais en plus libertaire, on va dire.
C'était quand même autre chose.
Comment ?
C'était quand même autre chose.
C'était autre chose, oui. Et avec des valeurs intéressantes, je pense qu'ils l'ont vraiment imprégné. On a d'ailleurs pour l'exposition quelques dessins de cette période. Et puis ensuite, il passe son bac à 18 ans. Et c'est le moment où il est appelé pour faire le service du travail obligatoire. Et là, il refuse. Et donc, comme beaucoup d'autres jeunes réfractaires au STO, il va regagner les Cévennes. Il va se cacher dans les Cévennes. Il va être de nouveau employé pour ses talents dans le dessin. Et donc, il devient un cartographe improvisé. Voilà, c'est sa partie.
Ah, mais ça, c'est très intéressant. Voilà. J'étais à. Et d'ailleurs, on va en parler certainement à Jean-Paul Bourré pour la FMD. Et il est considéré comme ancien combattant ou pas?
Non, il n'a pas du tout combattu. Hein. Non, non, pas du tout. Non,
oui,
non.
Il fait la
C'était
acte
une
de
opportunité plus que. Si tu veux, il fuyait le STO, donc ils étaient recherchés. Et il y a énormément de jeunes qui sont partis comme ça.
Fait, il a dit non quand même.
Ah oui, il a dit non.
Bon,
oui,
c'est le plus important. Non. C'est la définition de l'homme révolté d'après Camus.
Voilà. Voilà.
Mais il fallait être courageux parce que tout le monde n'a pas dit non.
Non, voilà. Bien sûr. Et dans le même temps, sa mère est partie se cacher dans le Mazé de sa belle famille parce qu'elle, c'était une juive orthodoxe d'origine bulgare qui avait quitté la Turquie pour épouser mon grand-père.
D'accord. Voilà. Ben, c'est une belle histoire tout ça.
Très belle histoire. Alors ensuite, il part étudier en fait à Paris, c'est ça?
Alors ensuite, oui, effectivement. D'abord, il s'inscrit à l'école des Beaux-Arts de Montpellier. Et puis très rapidement, ensuite, il présente le concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts de Paris. Dans les 50 finalistes sur 200 inscrits, je crois. Et donc là, ben, commence 9 années d'études. Il fera partie à un moment donné de l'atelier d'Auguste Perret, qui est l'architecte qui a reconstruit le Havre et qui est un des précurseurs de l'utilisation du béton dans l'architecture. Et puis, il termine donc ses études. Le 5 mai 1956, il obtient son diplôme. Et quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 31 mai de la même année, il devient papa pour la première fois, puisque je vis au monde à ce moment-là. Et très rapidement ensuite, il va obtenir une bourse d'études pour la Villa Médicis à Rome. Et c'est donc là qu'il va rencontrer Olivier Kacoub, qui lui est Grand Prix de Rome. Ils vont sympathiser, parce que je pense que Kacoub devait avoir que quelques années de plus que lui. Ils vont sympathiser, Kacoub va lui proposer de venir travailler avec lui à Paris. Donc il devient le premier assistant de Kacoub. Et puis... très vite après, Kacoub va lui proposer de le rejoindre en Tunisie pour participer à l'élaboration de la construction du palais présidentiel de Bourguiba. Donc on peut dire qu'il fait une entrée dans l'architecture par la grande porte. Donc il va à Tunis, nous allons à Tunis, tous les trois. Donc il se lance vraiment...
Sidi Bou Saïd n'est pas loin, Carthage, ou encore les volets bleus, le blanc.
Le palais est à côté de Carthage,
absolument à côté. Oui. Voilà. D'accord. Ouais. Très bien.
Et donc, il se lance vraiment à corps perdu dans ce projet. Et puis, eh bien, c'est là que le drame survient, c'est-à-dire que ma mère perd la vie en donnant la naissance à mon frère, Jean-Michel. Et là, eh bien, écoutez, tout s'arrête. Voilà, nous rentrons en France et s'ouvre une période de très intense de travail, de création architecturale, mais mon père est un homme dévasté.
Oui, alors il revient en France en 61, c'est ça?
En 60.
60, mm-hmm. 60, d'accord.
Et mais après, ici, de toute façon, il y avait du travail à cette époque-là, non? Il y avait beaucoup.
Quand il revient?
Oui.
Oui, là, il a très rapidement...
C'était 30 glorieuses, donc je suppose
que... Oui, ce que je vous dis, il y a eu une période très intense de travail dans laquelle il s'est vraiment...
Il y avait de la concurrence sur Nîmes?
Pas tellement.
Non?
Pas tellement. Il y avait des architectes, mais je ne pense pas qu'il y avait de la concurrence au sens où...
Non, je ne sais pas, parce que j'arrive pas à me représenter ce monde.
Oui, il y avait beaucoup moins d'agences d'architecture qu'à l'heure actuelle, oui. Il y avait quelques cabinets, genre...
Il y avait Schuller, non?
Schuller, Chabannes, Capelle, etc. Capelle, mais c'est vrai que celui de Joseph Massota, à l'époque, est l'un des plus importants.
Pagès, d'ailleurs, que nous avons invité, il a travaillé avec Joseph Massota, d'ailleurs, est très reconnaissant, et il nous a quittés il n'y a pas très longtemps. On l'a fait venir ici, d'ailleurs. Et alors, c'est curieux, ils ont en commun d'avoir fait des édifices religieux.
Ah oui.
Et oui, parce que Pagès a fait deux édifices en France, et il y a la fameuse abbaye Saint-Michel aux États-Unis.
Oui.
Qui est importante, quoi. Il m'a toujours bien parlé il m'a dit vraiment, il m'a donné du travail. C'est-à-dire qu'il lui a tendu la main.
Voilà. Alors, on va peut-être évoquer cette association, les amis de Joseph Massota, à moins que vous vouliez continuer avant de.
Alors, cette association, c'est une très jeune association, puisqu'elle a été créée l'année dernière. Et nous l'avons créée pour promouvoir et faire connaître l'œuvre de Joseph Massota, à la fois son œuvre architecturale qui, c'est vrai, je dois dire, est pour beaucoup d'œuvres maintenant, au gré des contraintes, des mises aux normes, que ce soit pour la sécurité, pour l'accès, pour l'isolation, fait que on fait beaucoup d'aménagements, mais qui se font souvent au détriment de la pureté de l'œuvre architecturale. Donc je trouve que c'est important de mieux faire connaître cette période et ces bâtiments. Peut-être aussi alerter au sujet de certains bâtiments qui sont en train de carrément tomber dans l'oubli. Je pense particulièrement au centre de formation agricole à Bagnols-sur-Cèze. Et puis, évidemment aussi, de faire connaître donc son œuvre graphique, parce qu'il a toujours, dessiné, très peu peint, mais beaucoup dessiné, et que j'ai conservé toujours ses dessins dans des cartons, en espérant qu'un jour, on pourrait les montrer.
Très bien, c'est une très bonne chose.
Voilà, et donc ça va être l'objet de cette exposition qui va avoir lieu mardi.
Mais Isabelle a toujours eu le sens de l'histoire, elle sait que la mémoire, c'est important, bien sûr.
Et donc Isabelle est la présidente de cette association.
Et qui sont les autres personnes alors de cette association?
Alors,
et comment fonctionne-t-elle?
Nous sommes pour l'instant un petit comité. Donc il y a Anne-Marie qui en est la secrétaire, Christian Gaillard qui en est le trésorier. Et puis ensuite nous avons quelques sympathisants. Mais pour l'instant, enfin je vous dis, on s'est consacré surtout à cette exposition. Et on va après mettre en place pour les personnes qui souhaitent adhérer. Puis peut-être mieux développer et diffuser ce qu'est cette association.
Oui. Peut-être un prix Joseph Massota pour les moi, je serais pour que des collégiens, des lycéens fassent un concours annuel qui s'appellerait le prix. Il y a eu Jean Carrière, il y a Marc Bernard, pourquoi pas un prix Joseph Massota, ce serait une bonne idée, non?
Pourquoi pas.
Pour les futurs architectes?
Pourquoi pas.
Ou les jeunes architectes?
Pourquoi pas, oui. Mais en tout cas, nous ne voulions pas rater ce rendez-vous de l'année 2025 qui correspond au centenaire de la naissance de Joseph Massota.
Bien, je vous propose une deuxième pause musicale.
Thank you.
De retour dans le studio Jean-Orsi de Radio Nîmes avec l'accent pour évoquer Joseph Massota et ses œuvres. Alors on s'est régalé évidemment avec la 7e symphonie dont certains disent que c'est la plus belle. Mais pourquoi avez-vous choisi cette 7e symphonie ?
Écoutez, c'est un morceau que mon père écoutait très souvent. Et bon, qu'il reliait évidemment à sa tristesse, hein, qui est une tristesse et un chagrin qui l'ont habité pendant de nombreuses années. Voilà. Donc, et il m'expliquait, alors ça je ne sais pas si c'est vrai, que ce morceau avait été écrit par Beethoven quand il a compris qu'il était en train de devenir sourd. Et c'est vrai qu'on sent une immense, à la fois nostalgie. Et... Enfin bon, j'aime beaucoup ce morceau.
Il avait un cercle d'amis, Joseph Massota, sur Nîmes.
Oui, il avait un cercle d'amis, bien oui. Sûr, d'amis fidèles. Oui, oui, oui. Alors, il y avait justement Bernard Capel, il y avait Prouin, il y avait un peu plus de loin Pellier. Mmh. Il y avait aussi toute une bande d'architectes, mais qui était plutôt à Montpellier. Ah, voilà, maintenant j'ai plus les noms.
Cazalet, non ?
Cazalet, je ne pense pas, non. Il avait des copains architectes qui étaient sur Montpellier, effectivement. Mais c'était en même temps pas quelqu'un qui c'était pas un fêtard, hein, pas du tout.
Oui, oui, sans parler de fêtard, oui, ça peut être un
voilà, c'était un, voilà, il était...
Parce qu'il y avait le club des 40 à l'époque.
Non, il n'a pas fréquenté.
Où on y était jusqu'à 40. Il y avait donc Pagès, il y avait notre ami le chirurgien Camille Lapierre, il y avait...
Non, mais il fréquentait pas, c'était pas... Un, il était ni mondain, ni... Il était assez solitaire, finalement, et puis, je vous dis, entièrement consacré à son métier.
Bah, il devait faire un peu aller à la chasse, à la pêche.
Non, travailler.
Il lisait, il allait au cinéma, il écoutait beaucoup de musique, mm-hmm. Il voyait ses amis et il travaillait,
mais
et
oui.
Voyageait énormément. Beaucoup. Mais ça, c'est un peu plus tard. Mais il avait vraiment un grand goût du voyage, oui. Et il m'en a fait faire un très beau, d'ailleurs, quand j'ai eu le bac.
En tout cas, sur le plan de ses activités, il avait des contrats, j'en ai parlé hier avec... Madame Catherine Bernier-Boissard, elle m'a dit, Massota, il travaillait avec tout le monde, avec toutes les collectivités. Et c'était ça. Il avait une disposition à travailler avec toutes... parce que là, derrière ça, il y a aussi la politique, il y a les relations. Mais elle m'a dit, il travaillait avec tout le monde.
Oui, oui, il se tenait un peu à l'écart des histoires politiques.
Son travail est relié à ses œuvres, et ses œuvres sont très nombreuses et très diverses. Alors on va peut-être les évoquer. Alors c'est à partir de 1960, où il est donc ici sur Nîmes, et qui commence à travailler sur Nîmes, mais aussi sur Alès, sur Bagnoles. Alors on va vous écouter, Anne-Marie.
Après ça, avec beaucoup d'attention.
Donc dès 1962, Joseph Massota va se voir confier la construction de l'église Notre-Dame du Suffrage et Saint-Dominique à Nîmes. Et qui est une église vraiment exceptionnelle, ce qui lui vaut d'être inscrite monument historique, très tôt d'ailleurs. Elle est en forme de poisson ou de barque, avec la nef qui se situe au premier étage, à l'étage, et plusieurs salles de catéchisme, 5 au rez-de-chaussée, puisqu'à l'époque, dans le quartier,
du chemin bas d'Avignon,
ce quartier accueille beaucoup de rapatriés d'Algérie.
Bien sûr.
Donc il y avait 500 enfants qui venaient au catéchisme chaque semaine. Donc c'est un édifice très sobre, constitué de petits modules en béton qui sont séparés par des rectangles de verre colorés. Donc c'est un principe très économique. Il n'y a pas de piliers porteurs. Ce sont vraiment les murs périphériques constitués de ces modules qui constituent la structure. Ce qui fait que l'église elle-même, cette superbe nef, est dégagée de tout élément architectural et il y a une lumière extraordinaire.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, sobre à l'extérieur, mais par contre à l'intérieur, c'est une illumination.
C'est ça.
C'est un éclairage formidable.
Oui, oui, oui. D'ailleurs, il y a deux petites vidéos que nous projeterons pendant l'exposition à Carré d'Art. Une première, c'est un petit film très court de 7 minutes qui a été réalisé par Raymond Achilly et qui s'appelle « La nef du salut ». Vous pouvez le trouver en ligne. Et une autre vidéo magnifique, alors sans son cette fois-ci, réalisée par Lucas Chazel, qui n'est autre que le petit-fils de Joseph Massota et le fils d'Isabelle, et qu'il a mise en ligne sur son site. Et c'est, ce sont des vues avec un drone, et c'est de l'intérieur, c'est vraiment superbe. Donc voilà, ça c'est le seul édifice qui a été inscrit monument historique, mais c'est déjà très bien, parce que cela prouve une reconnaissance nationale. Sinon, donc, en parallèle, on peut noter le rôle qu'a joué le CAUE du Gard dans cette mise en lumière au fil des années de l'œuvre de Joseph Massota. Donc, dès 1995, Joseph Massota était mort en 1989, le CAUE du Gard avait organisé une double exposition mettant en parallèle les œuvres de Joseph Massota et celles d'Armand Pellier. Et en 2012, je faisais partie du groupe de travail régional pour la mise en place du label Patrimoine XXe siècle à la DRAC. Et à cette occasion, j'ai vraiment proposé plusieurs réalisations au groupe de travail qui donc sont passées en commission régionale. Et toute une série d'édifices ont reçu ce label Patrimoine XXe siècle qui maintenant a changé de nom et s'appelle label Architecture contemporaine remarquable. Donc il y a à la fois le centre de formation agricole à Bagnols-sur-Cèze.
C'est celui-là dont vous disiez qu'il était en péril. Hein.
Voilà. Donc là, c'est important pour nous d'en parler parce que on sait par expérience que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, l'architecture, c'est quelque chose de très vulnérable. Parce que cela peut être agrandi, surélevé, dénaturé, mais parfois c'est également démoli. Donc là, actuellement, le bâtiment n'a plus d'affectation. Ce qui fait qu'un bâtiment vide, on sait qu'il a tendance à être squatté et il n'y a pas de volonté municipale dans l'immédiat de trouver une affectation pour ce bâtiment. Or, c'est un pur bijou dans le style Le Corbusier qui est resté intact, contrairement à de nombreuses autres réalisations. Donc c'est vrai que on lance un petit cri d'alerte.
Il faut faire appel à Stéphane Bern, non
qui est dans le... Oui, peut-être. Il faudrait trouver les moyens. Donc, je voulais citer très rapidement les bâtiments qui ont été labellisés ACR, donc Architecture contemporaine remarquable. La compagnie rhodanienne à Castillon-du-Gard. On trouve dans les documents de Joseph Massota une citation hommage à Oscar Niemeyer. Il a repris la forme des arcs dessinés par Oscar Niemeyer à Brasilia. Le lycée agricole de Rodillan, alors là aussi, difficulté pour quand il y a des modifications au niveau des usages et surtout des normes. Vous savez qu'on est le pays qui a le plus de normes en France, et notamment dans le bâtiment. Donc là, par exemple, il y a eu des modifications au niveau de la cantine, du restaurant, et qui ont eu des répercussions sur le bâtiment. Et le label, c'est une reconnaissance nationale, mais cela n'est pas pour autant que cela va protéger le bâtiment.
Et il y a le CFA qui est juste à côté aussi,
oui,
non? Et
voilà,
je crois qu'il est aussi
mais très actif, le lycée de Rodillan.
Le CFA
hein.
Également. Il y a l'immeuble de la SADA. Alors là, c'est un petit bijou à l'intérieur, hein,
oui.
Ruscatis. On recommande vraiment aux Nîmois qui ne le connaissent pas ou même au public plus éloigné. On a la possibilité d'entrer dans l'immeuble puisque c'est une société d'assurance. Et il y a en plus tout un décor de Paul Pascal qui a beaucoup travaillé avec Joseph Massota. Il y a tout l'ensemble à l'Espiguette d'une cave expérimentale et de l'Institut du vin actuel. Donc là, c'est un ensemble extrêmement intéressant aussi. Le restaurant universitaire à Nîmes, que beaucoup de Nîmois ont longtemps appelé la soucoupe volante, parce que, et du fait de sa forme. L'ancien Crédit Agricole d'Alès, qui maintenant s'intitule Mairie Prime.
Oui, c'est la DDTM, hein, non?
Non, c'est la mairie.
Ça s'appelle le...
C'est l'ancien Crédit Agricole. Oui. Voilà, c'est rue Michelet, qui vient d'ailleurs d'être là aussi modifié parce que, comme il y a changement d'usage, on a et surtout de nouvelles exigences au niveau énergétique.
C'est le bâtiment avec les feuillets. Non, il y a une succession
oui,
de feuillets.
Oui, c'est, hein, ça. C'est ça. Oui, voilà. Oui, oui. Et il y avait, là aussi, quand on parle de ce qui disparaît également, il y avait à l'étage, en haut de cette rampe escalier, qui a été conçue comme une rampe, mais qui est avec des marches, il y avait une immense photographie de Lucien Clerc, en noir et blanc, hein, puisque c'était le Crédit Agricole. Cela représentait des épis en noir et blanc, et là, ça a disparu. Par contre, au sous-sol, il y a encore des salles avec des photographies de Lucien Clerc. Mais comme ce sont des petites salles, des petits locaux techniques maintenant, j'espère qu'elles sont toujours en place, ces photos. Il y a, et évidemment, en bord de mer, il y a la marina Les Camargues Sud, au Gros du Roi, l'immeuble Grand Galion.
L'immeuble, voilà. Alors, il est superbe. Hein. Le Grand Galion, c'est quand même quelque chose qui est phénoménal.
Ah oui, c'est très impressionnant. Il est immense. Oui, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que Joseph Massota, grâce à la mission Racine, qui a permis de développer tout cet aménagement touristique du Languedoc-Roussillon, il a pu construire de nombreuses réalisations sur le littoral. Et le Grand Galion en particulier, il est intéressant aussi parce que dans chaque hall d'entrée, il y a un grand bas-relief, mais immense, de Paul Pascal, et qui représente les plaisirs de la mer, la baignade, la voile, la natation, enfin voilà.
Il a travaillé à l'époque avec, je suppose, la chambre de commerce, non? Parce que j'ai l'impression que tout ce qui est lié à Port-Camargue, tout cet aménagement-là, c'était la chambre de commerce, non?
Alors là, plus précisément, non, je crois que là, c'était souvent...
C'est juste pour savoir si elle travaillait la chambre de commerce.
Oui, non, à ma connaissance, non, mais il faudrait creuser la question.
Est-ce qu'on peut dire qu'il existe un style de Joseph Massota sur les différents immeubles? Non, alors, pas forcément. Hein, c'est ce...
Non, alors pour avoir beaucoup travaillé par ailleurs sur les réalisations architecturales d'Armand Pellier, d'ailleurs je vous signale au passage la réédition toute récente du petit ouvrage que j'ai coécrit avec la DRAC sur Armand Pellier dans la collection Duo, il est téléchargeable en ligne. Armand Pellier a vraiment une signature architecturale qui est tout à fait reconnaissable, et d'autant qu'il utilise systématiquement la pierre de Vers Pont-du-Gard dans ses réalisations. Joseph Massota, non. Par contre, ce qui était très intéressant dans son œuvre, c'est que il part d'un site, hein, il prend vraiment en compte le site, l'environnement, le climat, le relief, tout ce qui se trouve autour. Mais par contre, on va retrouver les grands courants architecturaux de son époque qu'il va adapter. Par exemple, le premier mur rideau construit à Nîmes, c'était la banque Chex. La banque Chex, donc en face du lycée Daudet.
Oui, bien sûr.
Et c'était, vous imaginez ce que ça constituait à l'époque, parce qu'on est à deux pas des arènes. Et c'était donc une façade entièrement vitrée. C'était quelque chose donc qui se développait de plus en plus. C'était donc une construction architecturale à ossature. Donc les éléments porteurs sont à l'intérieur, ce qui fait que la façade est libérée complètement. Donc elle peut être entièrement vitrée. Donc voilà, il a construit le premier mur rideau avec également celui de la maison de l'agriculture, hein, qui à présent est la maison du département, qui était le siège de la chambre d'agriculture.
Voilà. C'est pas mal aussi. Hein,
qui est magnifique. C'est... Elle est surtout très intéressante parce que là, il va aller au-delà de ce qui se faisait. C'était normalement ces immeubles du sol au toit, on avait une façade entièrement vitrée. Là, comme c'est la chambre d'agriculture, il va choisir de l'ancrer sur un soubassement en pierre, sculpté par Paul Pascal, qui va rappeler les racines.
Je crois qu'il y a un jardin intérieur aussi, non?
Il y a un patio, mais alors là aussi, le bâtiment était très modifié, puisque maintenant, c'est devenu un bâtiment administratif, qui n'a plus la même fonction qu'initialement. Donc, l'intérieur a été vraiment très remodelé, et c'est dommage, je pense notamment au grand panneau de céramique qui n'est plus perçu comme il l'était à l'origine. Par contre, l'auditorium est resté dans son état initial, et là je relisais tout à l'heure un entretien que nous avions eu avec Paul Pascal, et qui disait influencé par l'Égypte. Et c'est vrai, parce que quand on descend, on est confronté à des grands pans de murs comme ça, et l'échelle aussi, l'échelle humaine par rapport aux dimensions de cet escalier, font penser à ce que l'on peut ressentir dans certains monuments en Égypte.
Mais tout ça, ça va faire le bonheur de notre amie Francine Cabal, qui elle... passionnément ni moins, et je pense qu'elle va faire des parcours là. Ça...
Ah mais pour tout dire, l'an dernier j'ai donné une conférence pour Passionnément Patrimoine sur Joseph Massota, et c'est à cette occasion que j'ai harangué Isabelle qui était dans la salle, et justement je parlais des dessins de Joseph Massota en disant ils sont exceptionnels, ils sont très peu connus, quand vous verrez ce qu'il dessinait déjà à l'âge de 14 ans, c'est vraiment exceptionnel. Et donc, j'ai apostrophé Isabelle en lui disant, et d'ailleurs, en 2025, ce serait intéressant de les exposer. Elle m'a dit, mais oui, et l'aventure a commencé comme ça. Ben, et ça a été un petit peu le pied à l'étrier pour la naissance de l'association aussi.
De toute façon, je crois que vous pouvez compter sur Francine Cabane, parce que tant qu'elle sera là, il y aura, parce qu'elle a autour d'elle un cercle d'historiens, d'apprentis historiens, dont moi qui suis, je suis rien du tout, mais il m'a entraîné vers tout ce qui est historique, tout ce qui est patrimoine, et d'ailleurs c'est elle qui a fait pour le livre de notre ami Pagès, elle a fait la préface au livre donc d'aquarelle qu'il a publié, qui s'appelle Promenade dans Nîmes. Effectivement, elle est omniprésente.
Oui, et passionnée. Et c'est par la passion qu'on arrive à... C'est le meilleur chemin, hein, la passion, pour avancer.
Je pense qu'elle a lancé quelque chose sur Nîmes qui va, comme dirait Macron, ruisseler.
Je vous propose une troisième pause musicale. Jean Orsi de Radio Nîmes avec la Sam. Et alors, on a écouté donc une œuvre très expérimentale, on peut dire, non ?
Oui. Donc moi, cette œuvre, je l'ai choisie pour deux raisons. D'une part, parce qu'elle est liée à un souvenir très fort pour moi. Vous rappelez que cette messe pour un temps présent, elle a été commandée par Maurice Béjart au musicien Pierre Henry, qui est un des pionniers de l'électroacoustique. et pour venir soutenir le ballet qu'il a donné au Palais des Papes. Et donc mon père m'avait emmenée en 1968 regarder ce magnifique ballet dont je garde encore un souvenir ébloui de Maurice Béjart. Et puis également parce que pour moi c'est le début des années où mon père commence un peu à s'autoriser à sortir de ce chagrin. Alors c'est effectivement une période où il voyage énormément, il va au Mexique, il va en Asie, il va
au Japon,
oui bien sûr, en Égypte. Et puis il s'achète une très belle maison à Castillon-du-Gard. Et comme il ne voulait pas toucher au volume qu'il y avait au rez-de-chaussée, il fait élever une tour de 3 étages pour faire les chambres et pour pouvoir voir le pont du Gard de son plumard, comme il disait à l'époque. Et qu'est-ce qu'il il a une Spitfire qui conduit le pied au plancher non bleu. qui conduit très vite. Et puis il y a devant lui plein de projets qui vont s'ouvrir. Il est notamment retenu pour comme finaliste pour le concours du musée Beaubourg. Voilà. Donc effectivement, c'est une période qui est beaucoup plus joyeuse, on va dire.
Oui, période heureuse. Mais tu as bien prononcé le mot chagrin. C'est un mot très fort. C'est un mot qui est qui suppose un poids, quelque chose. Et c'est bien aussi. Il a quand même traversé, donc il a assumé, il a supporté, et puis je pense qu'il s'est transcendé, à mon avis, c'est ça quoi. Je veux pas parler à sa place, mais c'est important ce mot de chagrin. Il est dans les grands textes. Quand on a discuté l'autre jour avec Isabelle, elle me dit attention, ce n'est pas simplement le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine, mais c'était un peu ça aussi. Et oui, et oui. Mais c'est bien de... Moi, j'aime les gens qui ont de l'épaisseur comme ça, parce qu'il y a eu, un poids, et puis il y a une vie, un combat, une résistance. C'est la condition humaine, je crois.
Oui, et puis il y a eu cette œuvre de Saint-Dominique qui, pour lui, vraiment a été une œuvre de consolation, je crois qu'on peut le dire comme ça.
Il y a de quoi, Alors, au niveau des formes, j'ai entendu la forme amande.
Oui, barque, amande, poisson, oui, de toute façon, référence aux premiers chrétiens.
Et quand on la voit sortir, quand on est au chemin de cette avenue Bir Hakeim, derrière les escaliers, les marches, on la voit apparaître, on dirait qu'elle va avancer. Moi, j'ai trouvé magnifique, d'ailleurs, elle est à l'intérieur, elle est très vivante, puisqu'il y a des associations qui la font,
le rocher
oui. Qui sont très très actives, qui sont très fraternelles, qui sont... c'est important cette œuvre, elle existe dans cet environnement qui est le chemin bas.
Oui.
Qui est le chemin bas d'Avignon.
Oui.
Bien sûr, c'est justement ce travail fait par le rocher qui a permis de la faire revivre, sinon il y a toute une période où elle était caillassée,
abandonnée.
À l'abandon. Mmh. Oui. Envahie par les pigeons, la nef était envahie par les pigeons. Il y a eu un gros travail à l'époque où le père Nino German, officier, et là vous pourrez voir les principaux témoins de ce travail dans le petit film La Nef du Salut où vous verrez l'architecte Éric Grenier qui témoigne.
Mais Anne-Marie, de toute façon, un lieu comme celui-ci, comme celui-là, il ne peut avoir d'importance que si on l'entoure,
on
le désigne.
Et si on l'ouvre sur le quartier.
Mais moi, quand j'ai visité cette église, d'abord quand on rentre là-dedans, on est dans une ambiance de lumière. C'est très agréable. C'est même pas religieux.
Et en même temps,
celui qui connaît, et celui qui connaît là, il va trouver une histoire, un récit. Et puis on va vous montrer un coin là. Là, il y a une urne, il y a quelque chose. C'est très très important.
Oui.
Et les gens autour ne peuvent respecter parce que c'est à quelques mètres de là, il y a une mosquée, il y a des gens qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui peuvent être attentifs à tout ce qui est religieux et spirituel. Et là, il faut le nommer tout ça. Si on ne le nomme pas, effectivement, ça devient, c'est peut-être une construction sans signification. Il me semble.
Oui.
Il me semble.
Oui. Mais justement, elle est ouverte à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Et cela me rappelle une année où je l'avais faite visiter. Et il y avait justement un monsieur d'origine maghrébine qui était parmi les participants. Et il était émerveillé quand il a découvert l'intérieur.
Il y a des activités d'alphabétisation,
oui,
d'initiation, de citoyenneté.
Cuisine, de, voilà,
non, il se fait des choses,
c'est
bien.
Il fait beaucoup de choses, c'est devenu très vivant. Et donc le bâtiment, les habitants se l'approprient. Et il y a malgré tout toujours des messes à certaines occasions et parfois des concerts, voilà, dans la nef.
Pas suffisamment.
Bah pour qu'il y ait messe, il faut qu'il y ait des curés. Et puis
concerts, je parle de concerts,
oui,
de manifestations culturelles. Je trouve que la ville de Nîmes devrait s'intéresser à ce lieu.
C'est vrai que c'est tout le problème de Nîmes. Moi, je cherche pas à critiquer, je suis pas du tout quelqu'un qui est pour cliver, mais il y a des lieux, il y a quelquefois des citoyennetés qui sont périphériques, et cette périphérie-là, elle est négligée, je le vois, moi, pour le Festival de la Bio, vous avez 30 000 personnes qui vont venir à Carré d'Art, qui vont venir à Pablo Neruda, et quand vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus élargi, ça ne dépasse pas la rue de la République, pour ceux qui connaissent Nîmes, quoi. Mmh. Et c'est vraiment dommage.
Les œuvres de Joseph Massota exposées au Carré d'Art, c'est un pied de nez à l'histoire, un petit peu.
On peut revenir sur cette période où effectivement, où il y a un concours qui est lancé par la municipalité de Émile Jourdan pour faire un projet pour édifier un nouvel hôtel de ville sur l'emplacement de l'ancien théâtre qui a brûlé. Ce théâtre dont on a déplacé d'ailleurs les colonnes le long de l'autoroute en allant vers Arles. Et donc, mon père fait ce concours, il y passe énormément de temps, son agence y passe des jours et des jours, et il se trouve qu'il remporte le concours. Et la suite, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tous les cas, c'est le moment où il y a eu d'autres élections, Bousquet arrive à la municipalité de Nîmes et décide tout simplement, purement et simplement, de mettre un arrêt à ce projet. Voilà. Donc, ce qui fait que l'agence n'a pas été payée pour les travaux qu'elle a fait.
Pendant 2 ans.
Et pendant 2 ans. Oui. Voilà. Et ça a mis cette agence, l'agence de mon père, dans une grande difficulté, ça c'est vrai. Et donc, voilà, comme vous dites, c'est un pied de nez. Oui, c'est vrai que quelque part, il revient, puisque.
C'était sa place.
Puisque,
oui.
Peut-être.
Oui,
voilà.
Et d'ailleurs, dans le cadre de l'exposition, nous allons présenter dans des vitrines des articles de journaux où on voit la maquette qui aurait dû être
la maquette
de l'hôtel de ville qui aurait dû être réalisée. Et oui,
d'accord.
Oui, oui. Et sinon, vous voulez qu'on aborde les grands thèmes des dessins ?
Oui, de l'exposition.
Nous les avons regroupés en différents thèmes. Donc, il y en a beaucoup sur le thème de la femme. Là, vraiment, on sent que c'était important pour Joseph
Massota.
À quelle période ?
Sur quelle...
Alors, de ses 14 ans jusqu'aux
ah, oui.
jusqu'aux années 80.
C'est ça ?
Jusqu'à la
80,
fin,
oui.
9, oui.
9, oui.
Est-ce qu'on a des dessins ou des cahiers de l'école primaire ? Ça peut être intéressant, savoir ça, non ?
Ça, on a, mais on n'a pas jugé...
Non, mais est-ce qu'ils existent, ce tableau ?
Oui, j'ai quelques cahiers, oui.
Bon,
oui.
C'est ce que je voulais savoir.
Alors, c'est sur la femme, oui. Bon, là, je vous coupe, excusez-moi,
oui.
Mais c'est assez rude sur la femme, non ? Ce sont des dessins assez... Alors, je ne sais pas si ce sont ces dessins-là que j'ai vus qui sont exposés, mais ce sont des dessins un peu durs, non ? Non, pas forcément. Alors, parce que bon, moi, je les ai vus sur votre site, pardon, ces dessins-là. Mais
oui.
Je ne sais
alors,
pas si...
Ça, c'est... Oui, alors... C'est justement des dessins qu'on nous a demandé de ne pas exposer.
D'accord.
Voilà, parce que c'est un lieu public et qu'il faut, il faut préserver aussi les enfants qui empruntent le trajet pour aller à la bibliothèque. Donc la mort dans l'âme, nous avons abandonné l'idée de les montrer. Mais en revanche, Anne-Marie fera une conférence donc le vendredi 16 et elle les montrera dans leur contexte. Parce qu'effectivement, des dessins comme ça retirés de leur contexte, comme ceux dont va vous parler Anne-Marie, ça peut apparaître des dessins érotiques et peut-être un peu provoquants. Et en réalité, ce n'est pas du tout le cas.
De toute façon, l'artiste, il travaille toujours sur le corps. Le corps, il est multiple, je veux dire. C'est pas en 2025, on va censurer une œuvre d'art. Mais c'est comme ça. Après, bon...
On s'est conformé donc, directive.
Alors, donc il y en aura sur le couple, sur la mythologie, la spiritualité, l'architecture, bien sûr, des dessins de paysages, des dessins faits, des croquis faits pendant les, au cours de voyages, donc ce qu'a évoqué, les destinations évoquées par Isabelle, des œuvres de jeunesse, donc là où on voit ce qu'il a pu produire, et à l'école municipale de Nîmes, et à l'école des Beaux-Arts. Il y a quelques petites gouaches, pas beaucoup, parce qu'effectivement, ce sont surtout des dessins sur Nîmes, la Tourmagne, Nîmes également vue sous la neige, donc en 1987, voilà, le jardin de la Fontaine sous la neige. Et la tauromachie, bien sûr, la tauromachie, et un dessin de Bouvines aussi que nous allons présenter. Voilà.
Il avait des lieux qui, où il allait, ce, il avait un endroit, en Camargue, il avait un endroit où il aimait aller quelque part. Les Saintes.
Il aimait bien aller au Sainte-Marie, puis il avait aussi un appartement à Port-Camargue.
Oui, mais...
il aimait aller à la mer, oui.
D'accord, mais il y avait des lieux entre le Gros, les Saintes, il pouvait y avoir Saint-Gilles, il pouvait y avoir Francouvaux, par exemple.
Non, il n'y avait pas comme ça des endroits où il retournait fréquemment, non.
Et la course libre, il aimait, il y allait ?
Les courses libres, non. Les corridas, il y allait parce que son ami Roger Capron, qui était le céramiste avec lequel il travaillait souvent, aimait ça. Donc, mais je n'ai jamais senti chez lui l'aficionado. Jamais.
D'accord.
Non.
Alors, il était plutôt garrigue, alors.
Oui, voilà, garrigue. Si vous voulez lui trouver un lieu.
Parce que moi,
Non, parce qu'on veut savoir ce qu'il faisait.
C'est ça, oui, il y a une enquête.
Ce qui m'intéresse, il ne faut pas oublier que ces radionymes avaient l'accent.
Oui. Alors, c'est surtout un méditerranéen. Hein, voilà. Et son architecture s'en ressent vraiment, parce que c'est une architecture, souvent, quand ce sont des maisons individuelles, à patio, hein, c'est quelque chose de très important. Il y a un ensemble très intéressant, le lotissement La Garrigue, à Castillon-du-Gard.
Ouais.
Donc, des villas qui sont vis-à-vis du pont du Gard, sur un très beau site, qui ont toutes vu sur le pont du Gard.
Mais puis, sans la pierre de verse ou avec la pierre de verse?
Ah non, c'est du béton. C'est l'élève d'Auguste Perret, hein, qui a vraiment influencé son travail. Le béton armé, c'était la modernité. Lui, c'était la modernité qui s'exprimait à travers ses œuvres architecturales.
Je vous propose une dernière pause musicale.
Et c'est la dernière, je vous préviens.
Thank you.
retour dans le studio Georges Cid de Radio Nîmes avec l'accent, avec Joseph Massotta. Et je vais demander à Anne-Marie Ilianta pourquoi elle a choisi la sonate au clair de lune.
Alors en fait, c'est cette musique, presque tout de suite j'y ai pensé. Et curieusement, c'est à propos de, au sujet de mon père, qui était le docteur Henri Ilianta, qui était médecin généraliste et accoucheur, et maire de Marguerite pendant 30 ans, et qui donc consacrait toute sa vie au travail. Il travaillait 7 jours sur 7.
Donc il ne chassait pas, il ne pêchait
il
pas
Il ne chassait pas, il ne pêchait pas.
Non, mais à l'époque, c'était le serment d'Hippocrate, et on était 24 heures sur 24, c'était comme ça. Quoi.
Et donc, il a passé beaucoup de temps avec ses patients, beaucoup de temps en mairie, et je dirais un peu moins de temps avec sa famille.
Comme d'habitude.
Mais quand il avait, j'ai des souvenirs d'enfance, où quand il avait quelques rares petits moments pour lui, il jouait, il se mettait au piano, il jouait Chopin, ou voilà, la musique que nous venons d'écouter. Donc c'est amusant parce que nous n'en avions jamais parlé avec Isabelle, et finalement c'est une musique, nous avons choisi des musiques par rapport à nos pères.
Eh bien vous pourrez parler de vos pères là. Anne-Marie Ilianta, j'aimerais vraiment, je suis curieux de savoir si il y a un livre en perspective qui relaterait donc la vie, l'histoire et l'art de Joseph Massotta dans le cadre nîmois.
Donc en 2018, ce projet était en cours, mais j'ai dû quitter pour raisons professionnelles la région. Et là, depuis que je suis à la retraite, là depuis le 1er avril de cette année, il y a un projet effectivement de publication avec la DRAC, qui c'est un ouvrage qui devrait paraître en début 2026.
Voilà. Qui sera peut-être au salon de la biographie quand même, parce qu'il faudra...
Non, parce que les ouvrages de la DRAC ne sont pas vendus, ils sont offerts, donc ils sont hors circuit commercial.
D'accord.
Voilà.
Et on ne peut même pas faire présenter l'œuvre, même si on la donne, je veux dire, c'est pas possible.
Je ne sais pas, ça il faudra
Ce serait bien, je pense.
Il nous reste à remercier très chaleureusement et très sincèrement Anne-Marie Ilianta et Isabelle Massotta pour leur présence,
merci
pour leur
à
expertise
vous.
Et leur amabilité. Et donner rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain. Ce sera donc un autre sujet sur Henri Revoil.
Et on aura également une émission spéciale pendant la feria, c'est-à-dire le jeudi de la feria. Nous parlerons de culture taurine et de la fête à Nîmes.
Au revoir.